Depuis le coup d'État de 5 septembre 2021 en Guinée, et alors que l'actuel sultan espérait pouvoir étendre sa mainmise sur ce pays, les choses se sont tournées différemment et une tendance pro-axe de l'Est a fait surface dans ce pays. La Guinée a été l'un des premiers pays à venir en aide au Mali, alors sous sanction de la CEDEAO, elle n'a pas hésité à lui transférer du gaz et du pétrole, une aide qui a d'ailleurs beaucoup aidé le Mali à surmonter les sanctions. Depuis le début de la décision de la CEDEAO et de ses acolytes occidentaux de mettre des pressions et donc des sanctions contre le Mali, solidaire d'Assimi Goïta et des autorités de transition malienne, la junte guinéenne de Mamadi Doumbouya a gardé ses frontières avec le Mali ouvertes et entend en profiter pour réhabiliter le corridor entre les deux pays. C'est exactement depuis ce temps-là que l'actuel sultan a commencé petit à petit à menacer les pays du Golfe et le chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell, avait clairement déclaré que les récentes attaques au Togo montrent que la menace terroriste se propage vers les pays du Golfe de Guinée. Les efforts doivent être redoublés pour l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. D'un autre côté, au Burkina Faso, le nouveau coup d'État du pays et la prise du pouvoir par Ibrahim Traoré semblent ne pas aller dans le sens des intérêts de cet axe. Tout ceci nous mène à poser la question suivante. Pourquoi la Guinée est-elle devenue le théâtre de manœuvre de la marine française? Et beaucoup parlent de l'appui de la France sollicité par les autorités guinéennes pour sécuriser la frontière avec le Mali. Selon les informations et selon l'hebdomadaire Africa Intelligence, les autorités françaises ont accédé à la requête de leur homologue guinéenne en envoyant depuis cet été des personnels de façon ponctuelle afin de former les unités locales. Cette formation est assurée par les éléments français au Sénégal. Mais ce n'est pas tout, car l'exercice naval en Afrique, Grand Africaine Nemo 2022, a démarré ce mardi 11 octobre et se poursuivra jusqu'à 16 du même mois, a annoncé le ministère des Armées françaises dans un communiqué. L'exercice est organisé par l'architecture de Yaoundé et la Marine nationale française a annoncé le communiqué. Cet exercice, qui est à sa 4e édition, rassemblera 17 des 19 nations riveraines du golfe de Guinée et 8 nations partenaires dont la France, et se déroulera dans une vaste zone maritime allant du Sénégal à l'Angola, selon un communiqué de la défense française. N'est-ce pas là une déclaration de guerre contre la Guinée? Une mise en garde contre toute volonté de rapprochement avec la coalition interafricaine dont le Mali a posé les premières pierres et dont elle a assuré la sécurité aérienne du ciel avec ses coopérations avec la Russie et l'Algérie, en se dotant des radars 3D. La France aurait-elle peur de voir cette coalition interafricaine s'étendre jusqu'en côte, allant même jusqu'à ce que la Guinée devienne le gardien des frontières maritimes de l'Afrique de l'Ouest, en parallèle à ce que fait le Mali pour les frontières aériennes? Les agissements de l'actuel sultan nous mènent à dire que tout ceci serait effectivement signe de panique chez cet axe. Le bloc uni de l'Afrique représente l'anéantissement du néocolonialisme et ce cauchemar est en train de se réaliser. Arrêté le 10 juillet à l'aéroport de Bamako, 46 des 49 militaires ivoiriens sont toujours détenus au Mali. Bamako, qui les considère comme des mercenaires, a ouvert une procédure judiciaire à leur encontre. Alors que les discussions avancent et que la diplomatie est en phase de l'emporter sur les autres options envisageables, on apprend que la nationalité de certains de ces soldats pose problème. Cette information est alors relayée par plusieurs agences de presse et selon ces informations, plusieurs soldats ne seraient pas ivoiriens, mais viendraient du Libéria et du Sierra Leone. Leur témoignage aurait même été présenté au chef d'État de la sous-région intercédant dans ce dossier. De son côté, Amadou Koulibaly, le ministre porte-parole du gouvernement ivoirien, affirme que ces militaires sont bel et bien ivoiriens. Que signifie cette nouvelle révélation dans cette affaire? En effet, selon plusieurs informations, la diplomatie malienne a clairement démontré que les 46 mercenaires ne sont pas seulement des soldats ivoiriens, mais parmi eux se trouvent 16 soldats ivoiriens des forces spéciales de l'ADO. Les autres sont 4 Sierra Leonais, 5 Sud-Africains, 4 Ghanéens et des Togolais, tous issus de la Légion étrangère française. Les trois femmes étaient des dames d'honneur qui ne sont pas membres des forces armées, mais qui avaient d'autres rôles et d'autres missions à jouer à Bamako dans le cadre de cette opération en pleine Tabaski. Raison pour laquelle le colonel Assimi Goïta, président de la transition, a été clément avec elles, d'où le jargon militaire de titre humanitaire pour masquer l'obligation diplomatique de les libérer. Mais cette révélation concernant la nationalité de ces soldats n'en reste pas là. Et les informations font état du fait que les 46 mercenaires ivoiriens préfèrent être jugés et condamnés au Mali plutôt que d'être rapatriés à Abidjan. Car en cas d'échec, le mercenaire est exécuté à son retour. Raison pour laquelle a-t-on l'habitude de dire qu'on ne pactise pas avec le diable, car le diable n'a pas de prisonniers de guerre. En conclusion, les 46 éléments de la SAS Dado préfèrent la justice malienne que le châtiment de la diplomatie sanguinaire et hypocrite de la CEDEAO. Bien que la Côte d'Ivoire, ce pion de la France-Afrique, tente de tourner l'histoire à sa sauce, la réalité est dévoilée au grand jour, et les jours à venir auront sûrement d'autres révélations. Des informations de presse font état d'une volonté de la multinationale de vendre ses activités en Centrafrique en raison de la crise des carburants et du climat des affaires. Le groupe français ne confirme pas ces informations, mais dernier importateur de produits pétroliers en Centrafrique, il s'interroge sur ses priorités. Mais est-ce réellement pour cause de la crise de carburant et du climat des affaires? Que se passe-t-il au sein des instances françaises en RCA? Luc Michel, géopoliticien, nous en dit plus.
Écoutez, il y a tout d'abord une crise générale du secteur énergétique français. Tout ne s'explique pas avec la guerre en Ukraine ou la crise, la guerre du gaz et des hydrocarbures. En réalité, c'est l'échec du système industriel français. Il est d'une part mal dirigé par un gouvernement incompétent et de l'autre côté, il a à la tête du secteur industriel français des gens qui ne recherchent que le profit. Total a distribué des milliards de dividendes à ses actionnaires, mais refuse d'augmenter ses salariés. Et le directeur de Total a doublé son salaire, qui atteint plus de 500 000 euros par mois. Par mois, je dis bien. Ce qui se passe évidemment en Centrafrique, c'est que Total aurait visiblement tenté de liquider des secteurs qui sont moins rentables et qui ne rapportent pas de profit. Mais ce qui est curieux, évidemment, ce sont les accusations de Total d'organiser la pénurie en Centrafrique. C'est évidemment étrange au regard des pénuries qui se passent en France, mais ça rappelle à ce qui s'était passé il y a quelques années en Guinée équatoriale. En Guinée équatoriale, Total contrôle le service de la distribution. Alors que c'est un État producteur de pétrole, Total avait organisé des pénuries pour contraindre politiquement le gouvernement. C'est tout cela qui pose des questions. Mais il est bien certain, évidemment, que l'affaire est tellement complexe qu'il n'y a pas de réponse évidente. Ce que tout le monde signale, aussi bien à l'intérieur du système français qu'à l'intérieur de Bruxelles, à la Commission européenne, que des hommes politiques, etc., c'est l'incompétence des dirigeants français. Mais écoutez, il y a le fait, c'est que le précaré français, ce qui était avant le précaré, est en train de se fracturer. Des pays phares qui étaient les joyaux de la couronne, c'est-à-dire la Centrafrique, le Mali, le Sénégal encore ou la Guinée-Conakry, sont en train de prendre leur distance. Il y a une guerre profonde qui existe entre la Russie et la France et qui est en train de se centrer sur l'Asie, sur l'Afrique centrale et le Mali. Donc évidemment, la France a des problèmes en Afrique.
Le président de la transition au Mali a reçu mardi le projet de la nouvelle constitution du pays. C'est finalement 4 mois après sa mise en place au lieu de 2 que la commission chargée de l'élaboration de documents s'est acquittée de sa tâche. Le texte sera soumis au Conseil des ministres avant son passage au Parlement de transition. L'adoption d'une nouvelle constitution sera une étape cruciale dans le processus de reconstruction de l'État. La commission de rédaction de la nouvelle constitution formule le vœu ardent que le projet soit partagé et accepté, a déclaré Foussein Samake, président de la commission de rédaction de la constitution. Le grand oral du document sera sans nul doute le référendum constitutionnel prévu en principe en mars 2023. Pour le président de la transition militaire, l'adoption de ce texte marquera un nouveau départ pour le Mali. Les perspectives économiques pour nous sont positives en 2022 avec un taux de croissance que nous estimons être autour de 7% en 2022, mais surtout un taux de croissance qui va se raffermir en 2023 avec une projection de 16,2% et s'inscrit ainsi toujours dans une dynamique de maîtrise du déficit que nous avons ciblée. C'est ce qu'a fait savoir le ministre des Finances du Niger, Ahmed Jidoud, lors de la présentation du projet de loi 2023 devant les députés de l'Assemblée nationale le 5 octobre 2022 à Niamey. Le texte présente un budget en hausse de 11,8%. Après avoir dépassé le Botswana, second producteur mondial de diamants après la Russie, le Gabon creuse l'écart et confirme son statut de pays le plus riche du continent en termes de PIB par habitant, or très petit pays majoritairement insulaire. Cette nouvelle performance, réalisée avant la forte hausse du cours du pétrole en 2022, est due aux importantes avancées en matière de diversification et de facilitation de l'entrepreneuriat à l'origine d'une économie plus résiliente et d'une modernisation rapide du pays. Par ailleurs, ces réussites tendent à démontrer que la récente adhésion du Gabon au Commonwealth n'est en rien liée à des considérations d'ordre économique. Selon les dernières données de la Banque mondiale, le Gabon affichait un PIB par habitant de 8 017 $ début 2022, dépassant ainsi celui du Botswana qui s'établissait à 7 348 $. Saleh Kebzabo, l'un des principaux opposants au Tchad, a été nommé ce mercredi Premier ministre de la Transition. Le décret de sa nomination a été lu à la télévision nationale Télé-Tchad par Gali Ngote Gata, ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. Dans un tweet, sa formation politique, l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau, l'a félicité pour sa nomination au poste de Premier ministre du gouvernement d'Union nationale. Avant sa nomination ce mercredi, l'ancien candidat à la présidentielle et opposant à Idriss Déby Itno était le premier vice-président du comité d'organisation du dialogue national inclusif dont les conclusions des assises de N'Djamena ont décidé d'une deuxième phase de transition d'une durée de 2 ans. Sa nomination comme Premier ministre de transition du Tchad intervient au lendemain de la démission de l'ancien Premier ministre, Payimi Padake, et de son gouvernement.